Weinstein. Bonsoir. Attention, cependant, attention, dès maintenant, au moindre mot, à commencer par ce qui ne dit mot et se dit pourtant dans la différence des mots. Du jour au lendemain, avec Gérard Granel, qui publie « Études » aux éditions Galilée. Gérard Granel, où on arrête d'enseigner.
Bien entendu.
À ce moment-là, oui, ça s'appelle la retraite. Ça porte bien son nom.
On n'est pas obligé de battre en retraite pour autant. Disons que on arrête la charge très lourde de l'enseignement et on essaye de se consacrer d'autant plus à l'écriture. Et dans mon cas, suite quelques amis à une petite maison d'édition que nous avons fondée, qui s'appelle TER, Transport Après Presse.
Qui publie des bandes dessinées ?
Pas très exactement, non. Qui se consacre à la philosophie comme par hasard, mais qui est surtout assez fier d'avoir déjà 9 ou 10 titres de Wittgenstein. Il n'y a pas que ça.
Vous avez remarqué que la philosophie avait le vent en poupe en ce moment ?
C'est ce qu'on dit. Vous savez, moi, c'est comme Voltaire, maintenant je cultive mon jardin, je me suis retiré dans la Gascogne, c'est admirable d'ailleurs. Donc je ne sais pas où souffle le vent. Mais si c'est le cas, tant mieux.
Quand on cesse d'enseigner, on commence à apprendre véritablement ?
Non, je ne dirais pas ça. Je dirais presque l'inverse. Je pense que c'est quand on enseigne qu'on apprend. Surtout quand on rencontre des incompréhensions auxquelles on ne s'attendait pas, choses qu'on croyait connues ou évidentes, et que donc on est obligé de faire les frais d'une explication à partir de zéro, on s'aperçoit que, au fond, c'était peut-être les autres qui avaient raison de ne pas comprendre. Enfin, on apprend. Après, quand on s'arrête, non.
La retraite, c'est un désapprentissage.
Oui, je ne saurais pas vous dire, c'est trop malin pour moi, ça.
Il faut remettre tes compteurs à zéro.
Pas non plus, il y a évidemment une continuité. Enfin, pourquoi se démentir, n'est-ce pas ? Entre, par exemple, ce qu'on disait en cours ou ce qu'on écrivait avant, puisqu'on écrit maintenant. Non, c'est pas un désapprentissage, c'est un autre usage du temps. C'est à peu près tout, c'est pas... puis on a besoin de repos.
Le professeur ne cesse d'enseigner qu'on ne sait rien, qu'on ne sait jamais rien, et le retraité, lui, sait quelque chose.
oui. Non, encore une fois, moi je ne ferai pas de césure du point de vue philosophique, puisque tout ça sont des allusions à Socrate que vous faites, n'est-ce pas ? Je ne ferai pas de césure du point de vue philosophique, c'est simplement des questions de rythme de vie, de surcharge de travail. En revanche, on est libre totalement de ses horaires, ça c'est formidable quand il s'agit d'écrire.
Là justement, vous écrivez beaucoup maintenant que vous avez le temps pour ça.
Oui, beaucoup. Pas un rythme que j'appellerais déridéen, mais pas tant que ça. Mais effectivement, il y a 2 livres qui sont sortis depuis 4 ans.
Oui, dont un en 1990 qui fait pas loin de 400 pages.
Oui.
Écrit logique et politique chez Galilée. C'est un recueil de textes.
C'est déjà un recueil de textes avec des inédits et études dans le même cas. Alors, évidemment, ce que c'est d'expliquer ça sur la quatrième de couverture, comme on dit dans le métier d'étude, ça pourrait paraître totalement discontinu, c'est ce que j'ai craint longtemps, puis je me suis aperçu que non. J'aurais bien du mal à vous expliquer pourquoi, mais ces textes dont l'isole l'objet n'est pas le même, etc., s'entrelisent les uns les autres. Ça veut dire sans doute qu'il y a une continuité dans la manière, très certainement, et peut-être même un horizon solide de questionnement, je l'espère. Mais c'est pas à moi de me jeter des fleurs.
Ce livre, le plus récent, Étude, comme le précédent, écrit logique et politique, paraît dans une collection, La philosophie en effet, dirigée par Jacques Derrida, que vous citiez, par Philippe Lacou-Labarthe et Jean-Luc Nancy.
Deux de mes anciens élèves, voilà. Lacou et Nancy.
Il y avait Sarah Kaufmann, malheureusement, qui...
Et malheureusement, qui a disparu.
Qui a disparu. Est-ce que la publication dans cette collection a une signification particulière?
Non pas, si ce n'est la confiance que m'ont fait les gens qui l'amène, qui la dirige. Peut-être aussi un certain éloignement à l'égard de Gallimard, chez qui j'ai été publié, je dirais, au début de ma carrière.
Pour le sens du temps et de la perception chez Husserl.
Voilà, vous savez tout.
Un livre qui a été publié
chez Gallimard.
Une très bonne année d'ailleurs, en 68.
Ah oui, 68, c'est la bonne année.
Ouais. Les étudiants ne lisaient plus de livres cette année-là.
Non. On triait les professeurs autrement. Il y avait ceux qui pouvaient encore entrer, que les étudiants laissaient entrer. C'était une de mes grandes fiertés, c'est que ils me laissaient entrer. Mais pas tout le monde. Alors, voilà.
Vous avez également traduit des philosophes, Gérard Granel, et non des moindres.
Beaucoup. Je crois que mon vrai métier, enfin que j'ai dérivé finalement petit à petit, puis ensuite très vite, du métier d'enseignant au métier de traducteur. Avec un plaisir extrême. J'ai traduit La crise de Husserl, oui. Effectivement, le testament husserlien. Je ne sais plus.
Vous avez traduit Heidegger.
Pensée de Heidegger.
Dans des domaines linguistiques extrêmement différents, puisqu'il y a l'allemand avec ces messieurs, Husserl, oui. Heidegger. Il y a aussi Wittgenstein.
Il y a Wittgenstein en anglais ou en allemand.
Et puis il y a Gramsci.
Ouais, en allemand aussi, Wittgenstein. C'est quand même sa langue maternelle. Et puis il y a Gramsci, oui, parce que j'ai passé quelques années à Rome. Et je massacre cette langue avec plaisir.
Traduire un philosophe, c'est la meilleure façon de le lire.
C'est, je dirais presque maintenant que c'est la seule. C'est presque du chauvinisme du traducteur, mais c'est incroyable. Comme ce travail empêche toute superficialité de la lecture, même lorsqu'on croit lire très sérieusement. Mais, traduisez donc Descartes en polonais, hein, c'est fantastique. C'est devenir un cartésien incollable. Et puis l'esprit d'une pensée est dans sa langue. Enfin, c'est bien évident. Il n'y a pas de non-lieu logique de la pensée. Il y a le tour qu'elle prend dans la matière qu'elle parle, enfin dans la matière de sa parole. Et ça, c'est ce qui fait que traduire est un métier alors effrayant, parce que c'est à la rigueur impossible. Même quand c'est réussi, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on est obligé d'écrire un autre book, d'une certaine façon, qui soit un parallèle, enfin... Mais c'est aussi loin de l'original que le portrait peut l'être de l'original, enfin... Ça apprend énormément de choses, et sur la langue et sur la pensée, mais ça, ce sont des banalités, mais c'est surtout un grand plaisir.
C'est comme ça qu'on devient philosophe sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose.
Oui, c'est ça. Non, mais on les acquiert, les savoirs. Il faut les acquérir, je ne crois pas du tout à l'inspiration vide. Il faut les acquérir, je sais très bien ce qui me manque. Par exemple, je suis jamais arrivé à comprendre ce dont je suis par ailleurs persuadé. C'est comment toutes les règles pour la direction de l'esprit, c'est-à-dire toute la méthode de Descartes, c'est-à-dire tout Descartes, provient d'une généralisation des procédures qu'il a employées pour résoudre le problème de Papus, c'est-à-dire dans sa géométrie. Moi, j'achoppe sur les sections coniques tellement je suis nul en maths. Hein. Et je n'ai jamais arrivé à faire la démonstration, ce que je viens de vous dire, ça va me manquer. Donc, je ne l'ai pas écrit.
Mais vous pourriez prendre des leçons particulières.
Faudrait que je me fasse tapiriser, comme on dit à l'école. J'ai peut-être un peu passé l'âge. Et puis, il faut trouver quelqu'un qui se dévoue. à apprendre les sections coniques au seigneur Argante, au seigneur Géante. Ça court pas les rues. Thank you.